Bonjour à tous. Je suis très content d'être là parmi vous. Oui, merci. Il y a une petite différence entre Manu et moi, vous aurez remarqué. Donc je disais, je suis très content d'être là parmi vous, d'avoir pu répondre à l'invitation de Manu, de venir vous visiter et de voir que vous avez ici une belle église, on pourrait dire par le bâtiment, mais aussi j'ai apprécié ce temps, ce début de culte avec vous, ce temps de prière qu'on a pu partager. Vous êtes aussi une belle église par ce que vous vivez, par votre communion, et ça fait plaisir à voir. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion qui trotte dans ma tête depuis quelques mois. L'année dernière, j'ai eu l'occasion, puisque j'étais encore à la fac l'année dernière à Vaux-sur-Seine, de travailler un peu sur ce texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et j'ai eu l'occasion, parce que ce texte me travaillait, était là en moi, j'ai déjà eu l'occasion de prêcher sur ce texte à l'avenue du Maine dans le cadre de mon stage. Et j'avais envie de partager avec vous un petit peu certaines de ces réflexions. Alors notre texte aujourd'hui, c'est donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 21 à 26. Donc si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à suivre la lecture avec moi de ce texte qui se trouve dans le sermon sur la montagne que Jésus a donné au tout début de son ministère. Donc Matthieu 5, versets 21 à 26. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, sur l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Mais moi, je vous dis. Donc, je vous ai dit, ce texte est dans le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus redonne à la loi de Moïse son vrai sens. Au moment où Moïse a donné la loi au Sinaï, c'est le moment où le peuple d'Israël est constitué en tant que peuple de Dieu, c'est le moment de l'Alliance. Et Jésus reproduit un peu ce schéma-là, mais en redonnant son vrai sens à la loi. Et à la lecture de ce sermon, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le méditer, mais en tout cas c'est un texte qui fonde notre foi, qui fonde notre identité de chrétien. À la lecture de ce texte, parfois on a un petit goût d'absolu, un petit goût de « est-ce que je vais y arriver ?» Ici Jésus nous dit « pas de colère ». Il nous dit qu'il faut que son disciple, s'il se met en colère, alors sera passible de jugement. Et moi, je me demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que pour être un bon chrétien, accepté par Dieu, mais aussi peut-être accepté par mes frères et sœurs, est-ce qu'il faut que j'évacue toute colère de ma vie? Ça me laisse une petite impression étrange. Il y a quelque chose, un petit truc, je suis pas sûr de bien comprendre ce que Jésus me dit là. Je connais un père de famille qui a un fils qui est au collège, enfin en tout cas qui était au collège à l'époque où j'ai eu cette discussion avec lui, et il m'a dit « si mon fils se ferait frapper à l'école, moi je lui enseigne de ne pas tendre l'autre joue, mais de répondre à la provocation. Je ne veux pas que mon fils soit un paillasson. » Cette histoire me laisse la même impression étrange. Bien sûr, je refuse l'escalade de la violence au nom de peut-être une certaine compréhension de l'enseignement de Jésus sur tendre l'autre joue, qui se trouve aussi dans le sermon sur la montagne. Mais en même temps, je ressens l'injustice Et je m'indigne et je me dis, mais on ne peut pas laisser l'injustice impunie comme ça. Est-ce que dans ce cas-là, au minimum, ce collégien n'aurait pas le droit d'être en colère ? C'est si on vient le frapper alors que c'est pas juste ? En réalité, l'enseignement sur la colère, l'enseignement biblique sur la colère, est assez ambigu. Et j'espère qu'on va démêler ensemble un petit peu ça. Je ne voudrais pas vous laisser sur cette impression d'ambiguïté. Et je vous invite à parcourir très rapidement quelques passages bibliques. Le premier, on va le lire ensemble, et puis les autres, je ferai que vous les rappeler. Donc ce premier texte se trouve dans Genèse, au chapitre 4, la fin du verset 5 et le verset 6. Et vous allez tout de suite voir que si on lit ce texte qui raconte l'histoire de Caïn et Abel, qui se trouve au sein de l'histoire de Caïn et Abel, on ne va pas lire l'histoire en entier, si on lit ce texte, c'est aussi parce que ce texte lit la colère et le meurtre, comme Jésus vient de le faire dans le sermon sur la montagne. Caïn fut très fâché, donc la deuxième partie du verset 5, dans le chapitre 4 de la Genèse. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ? Dans d'autres traductions, vous aurez, pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi ton visage est abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Donc voilà ce premier enseignement sur la colère que nous avons dans la Bible, c'est le tout premier, sur lequel je reviendrai plus tard pour donner un peu plus d'informations. Rapport à la colère dans la Bible, on a le passage le plus connu en général, c'est Éphésiens 4, 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » On trouve cet enseignement aussi dans l'Ancien Testament, si vous voulez chercher, au psaume 4, verset 5, si vous voulez le lire plus tard. Mais on se rappelle rarement que dans le même chapitre d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 31, Paul nous demande que toute colère soit enlevée du milieu de nous. Et là, on se demande ce qui se passe. On se dit, mais est-ce qu'on a le droit d'être en colère ? Est-ce qu'on n'a pas le droit ? C'est pas très clair. Et l'Ancien Testament, les psaumes aussi, se font l'écho de cette ambiguïté au psaume 37, verset 4. On a aussi donc le passage qui occupe notre méditation, qui nous parle de la colère. On a en Exode 32, on a Moïse qui se met en colère à cause du veau d'or. Il se met en colère contre les Israélites. En Jérémie 6, au verset 11, Jérémie est empli de la colère du Seigneur contre le peuple qui se détourne de Dieu et qui rompt l'alliance. Dans les Galates, on a Paul qui insulte les Galates de tête creuse. On pourrait... Racard est très très proche de ce genre d'insulte. En Marc, chapitre 3, verset 5, donc plus que les hommes de Dieu, on a Jésus qui est en colère face à la crédulité d'Israël. Et en Exode 4, 14, c'est Dieu lui-même qui se met en colère contre Moïse, parce que Moïse n'arrête pas d'essayer de trouver des options pour louvoyer et ne pas partir répondre à l'appel de Dieu. Donc, comme je disais, les données bibliques contiennent une certaine ambiguïté sur la colère. Alors, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce que c'est la colère. D'abord, la première chose qu'on peut dire sur la colère, c'est que c'est une émotion. Et une émotion nous donne une information. C'est un peu comme la douleur nous informe d'un danger. Si je pose ma main sur une plaque... la plaque chauffante dans ma cuisine, et que ça me brûle, je ressens une douleur, c'est ce qui me donne une information, tu es en train de te faire du mal, ça va pas, il faut faire quelque chose, ça doit changer. Pour revenir au domaine des émotions, on a par exemple la peur. La peur nous donne aussi une information, elle nous donne l'information qu'il y a un danger. Donc quand je ressens de la peur, je me questionne et je me dis qu'est-ce qui se passe, et je vois qu'il y a un danger, je vois s'il faut que je me protège ou pas. Mais la colère, c'est un peu la même chose au départ, c'est une émotion. C'est une émotion qui nous donne une information sur notre frustration. Peu importe si notre colère est juste ou non, si notre frustration est juste ou non, ça m'indique que je suis frustré, qu'il y a quelque chose qui empêche le cours des événements tel que je l'avais prévu, tel que je l'aurais souhaité. Et à ce titre d'émotion, la colère, à ce moment-là, elle est involontaire. La colère-émotion est involontaire. Si, par exemple, tout à l'heure, je vous raconte l'histoire du collégien qui se fait frapper alors que c'est pas juste, même nous, en tant que spectateurs, on ressent une certaine colère parce qu'on est indigné, on est frustré par l'injustice qu'on entend, qu'on voit, à laquelle on peut assister. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Liste de Schindler. J'étais assez jeune quand il est sorti. Je l'ai vu au cinéma. Après ce film-là, je ne voulais plus jamais revoir un film sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que je me sentais tellement frustré, tellement impuissant devant autant d'injustices et de ne rien pouvoir faire. Et j'avais ce sentiment de colère en moi, fruit de cette frustration. Et dans l'exemple de Caïn qu'on vient de lire, Dieu lui fait prendre conscience de ce sentiment, de cette frustration. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu pose des mots. Dieu pose une parole, comme Dieu le fait souvent. La parole de Dieu, les mots que Dieu pose sont importants. Ils sont source de vie. Et pour Caïn, ça aurait été l'occasion, en écoutant Dieu, en écoutant ses mots, en les entendant au fond de lui, de poser des mots sur sa colère et de passer dans le domaine du volontaire. Jusqu'ici, on était dans le domaine de la volontaire. Et je crois que c'est de ça que parle Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous ressentez une colère émotion, ne péchez pas. Et mettez-la à jour, posez des mots dessus. Toute émotion a besoin de s'exprimer. On peut ignorer nos émotions, consciemment ou inconsciemment. Des fois, parce qu'on a grandi dans une famille où on ne dit pas les choses, on peut avoir l'habitude de ne pas exprimer sa colère, de la refouler à l'intérieur. Et on peut dire, mais moi je ne me mets jamais en colère, ça ne m'arrive jamais. Je peux ressentir toutes les injustices du monde, je suis un peu comme Jésus, je prends tout sur moi. Mais peut-être des fois on se trompe parce qu'on n'est pas Jésus et peut-être qu'on n'est pas capable de le faire. D'ailleurs Jésus, comme je disais tout à l'heure, s'est mis en colère parfois. Donc on peut ignorer cette colère émotion qui est là au fond de nous. Mais je me rappelle cet enseignement de chimie que j'ai reçu en troisième, qui je crois s'enseigne maintenant en quatrième, cette phrase de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». S'il y a des profs de physique parmi nous, ils seront contents. L'émotion que je ressens est comme une énergie libérée au fond de moi. Cette énergie est libérée et elle part vers l'extérieur. Je peux l'ignorer si je veux. Mais elle va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Que vous le vouliez ou non, chaque émotion qui est à l'intérieur de moi, les émotions positives comme les émotions négatives, sont là et elles s'expriment. Si je les ignore, cette énergie va se canaliser quelque part. Soit de manière injuste, par la violence contre l'autre, parce que je n'ai pas réfléchi ma colère, je n'ai pas posé des mots dessus, alors elle sort d'une manière inconsciente, sans que j'ai pu la canaliser, et on peut devenir violent contre quelqu'un d'autre. Soit, si on se refuse à être violent contre l'autre, on peut être violent envers soi. Ou enfin, on peut être très fort dans le fait de dissimuler ses émotions et créer une nappe, c'est comme une nappe phréatique, cette nappe d'eau qui est là sous terre, bien présente. Et puis cet abcès se remplit petit à petit et il nous mine. Il nous enferme, il nous emprisonne. Il faut prendre conscience de ses colères, de mes colères. Il faut que j'en prenne conscience. Tant qu'elles ne sont encore qu'émotions, pour pouvoir les gérer, comme Dieu demande à Caïn de le faire. Étape d'après, si j'accepte maintenant enfin de regarder ma colère émotion, trois questions se posent à moi. Quelle est la source de ma colère? Est-ce que ma colère est justifiée ou non? Et quelle est la mesure? Est-ce que ma colère est mesurée en face de l'événement? Et ça, c'est une opération vraiment très difficile, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très difficile d'avoir un regard juste sur soi, d'être capable de se questionner, de laisser l'évangile briller au sein de moi pour me demander si je suis juste dans ma colère. Quand ce flot de lave jaillit, parce que j'ai été blessé, parce que c'est dur, parce que là il y a cette émotion qui ressort, cette indignation, comment je fais pour arriver à prendre le temps de me poser la question, est-ce que c'est vraiment... La personne contre qui je suis en colère là maintenant, est-ce que c'est vraiment la source de ma colère? Est-ce que peut-être j'étais au boulot toute la journée et j'ai pas pu exprimer ma colère contre mon chef parce qu'il me fait peur et j'étais frustré toute la journée, je rentre chez moi et là il y a une petite chose et ma colère s'enflamme contre ma femme, contre mes enfants, contre les gens qui habitent avec moi. C'est difficile à ce moment-là. Quand je suis blessé, quand quelqu'un m'a fait du mal, c'est super dur de ne pas revendiquer mon droit à la justice et de me poser d'abord la question, mais est-ce que cette personne a vraiment mal agi envers moi? Peut-être que je suis blessé, mais peut-être que cette personne n'a rien fait de mal en réalité, peut-être qu'elle ne savait pas, peut-être que plein de choses. Mais c'est difficile, quand je suis blessé, de prendre une pause et de faire ça. C'est difficile quand l'autre ne fait pas attention à moi, quand il m'ignore, quand il ignore ma blessure, de me poser la question, de m'arrêter 2 minutes et de me dire, est-ce que ma réaction est proportionnée? Est-ce que la colère que je ressens, que j'ai envie d'exprimer là maintenant, explosive ou méprisante, est-ce que cette colère-là va être proportionnée à ce qu'il vient de m'arriver? C'est pas évident. Et comme je le redirai tout à l'heure, c'est là que nous plaçons toute notre espérance en Jésus et dans le Saint-Esprit qu'il a placé en nous. Admettons que j'ai identifié la source, c'est la bonne source. Que, effectivement, la personne a mal agi envers moi et que ma réaction, jusqu'à présent, semble proportionnée à ce qui m'est arrivé. Donc ma colère est juste. On peut dire elle est justifiée. Est-ce que je vais la laisser s'exprimer? C'est un autre choix conscient qu'il faut faire. Est-ce que ma colère-émotion, je vais la laisser devenir une colère-parole ou une colère-acte? Parfois, juste en parler avec un ami ou l'exprimer à Dieu, ça suffit. C'est le pouvoir de la parole posée. Quand peut-être la faute n'est pas très forte, quand peut-être la personne que j'ai en face de moi a commis une maladresse, mais que peut-être je la blesserai plus en lui disant ce qui s'est passé qu'en gardant les chances pour moi et en acceptant de juste pardonner, passer l'éponge, remettre ça à Dieu dans la confiance. Peut-être juste la parole posée peut suffire à passer. Mais il y a des circonstances, autres que celles-là, où il ne faut pas exprimer sa colère. Quand ne pas exprimer? Quand cette colère-émotion ne doit pas devenir une colère-parole, une colère-acte? Et là, je vais revenir au texte, versets 21-22. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre ce frère sera passible de jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Excusez-moi. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. » On n'a pas ici 3 cas. Le cas de la colère, c'est interdit. Le cas de traiter son frère de raca, c'est interdit. Le cas de traiter son frère de fou, c'est interdit. En allant jusqu'au bout de vouloir séparer les trois, on pourrait dire que finalement toutes les autres insultes sont permises. Il y a juste ces 2-là qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et je ne sais pas vous, mais moi, raca, ça me vient rarement à la bouche. C'est pas très difficile de ne pas l'utiliser. Non, Jésus décrit une seule situation. Il met les 3 mots ensemble, les 3 situations ensemble. C'est la colère, l'insulte qui sont ensemble. Jésus lit la colère à l'insulte. Et la colère contre Jésus, contre laquelle Jésus nous demande de réagir et de ne pas nous laisser avoir, de ne pas nous laisser emporter, c'est cette colère qui est liée à l'insulte. C'est cette colère qui me fait perdre de vue le respect de l'autre. Cette colère qui me fait perdre de vue la soumission à l'autre, parce que je dois être soumis à l'autre. C'est cette colère qui a mené Caïn au meurtre, parce qu'il a méprisé son frère. Jésus me met face à ma responsabilité. Une fois ma colère émotion consciente, si je veux pouvoir l'exprimer en colère acte ou en colère parole, je ne peux pas le faire si en moi le mépris de l'autre a le dessus. Ça m'est interdit. Si je ne suis pas capable de dire en même temps que l'expression de ma colère, « Tu as fauté envers moi, mais tu es plus grand pour moi que ta faute, tu as une valeur plus grande que ta faute, comme Jésus a fait avec nous. » Dieu nous dit, vous avez fauté envers moi, mais vous avez plus de valeur que votre faute. Si je ne suis pas capable de dire ça à l'autre en lui exprimant ma colère, alors je dois me taire. C'est ce que me dit Jésus. Parce que Jésus ne veut pas qu'il y ait de mépris entre nous. Ce n'est pas possible qu'il y ait du mépris entre nous. Il ne peut pas autoriser ce mépris-là. La colère méprisante ne doit pas exister. Et pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des occasions où même Dieu se met en colère. Alors quelles peuvent être les bonnes raisons de se mettre en colère? Je crois que la colère dans la Bible est toujours une limite au mal. Prenons l'exemple de la colère de Dieu. La colère de Dieu, quand dans Jérémie, cette année on a étudié le livre de Jérémie en études bibliques pendant 6 mois avec l'église de l'avenue du Maine, tous les mercredis soirs, c'était vraiment passionnant. Et j'ai une des choses que j'ai retenues, c'est que le jugement de Dieu contre le peuple d'Israël et le jugement de Dieu généralement, la colère qui s'exprime de Dieu, est toujours une limite que Dieu pose au mal. Dieu aurait pu dire, bon, c'est pas grave, je les aime bien, je les laisse faire, tant pis, quoi. Mais le mal aurait continué. Dieu aurait pu dire la même chose pour l'humanité, mais c'était pas possible. Et alors Dieu a envoyé Jésus pour que la colère tombe sur quelqu'un. Et je sais pas vous, mais parfois je suis touché par ça. J'ai une mauvaise conscience et je me dis, mais la colère qui devait tomber sur moi à cause de mon péché, elle tombe sur Jésus. Ça me rend triste. Mais en même temps, ça me rassure. Parce que je sais que Dieu pose là une limite au mal. Et que parce que le mal est jugé, parce que Jésus l'a porté à la croix, alors un jour ça sera fini. Un jour il n'y aura plus de mal. Si Dieu n'avait pas opéré ce jugement, il n'y aurait pas de limite au mal. Je suis aussi rassuré de savoir que j'ai un Père là-haut qui s'occupe de moi et qui est capable de me poser des limites quand les ténèbres en moi reprennent le dessus et que j'agis mal. On chante souvent ce chant « Sonde-moi, ô Dieu, et dis-moi si je suis sur une mauvaise voie, reprends-moi si c'est nécessaire. » Alors quand il s'agit de protéger le faible ou le pauvre, de s'indigner face à une certaine injustice, même si le faible et le pauvre c'est peut-être moi, alors il faut parfois poser une limite au mal et que ma colère émotion devienne une colère acte ou une colère parole. Mais je le redis, à aucun moment je ne peux le faire si je le fais avec mépris. Alors pour revenir à mon petit collégien, dans le cas idéal et dans ce qui serait le mieux, c'est sûr qu'il n'y a aucune haine, aucune violence qui lui est permise vis-à-vis de l'autre. Il ne peut pas ressentir du mépris. Mais il y a une indignation qui doit être là. Elle est juste, cette indignation. Il est normal de ressentir cette indignation et d'une manière ou d'une autre, de poser une limite. Peut-être qu'il est possible de juste l'exprimer par quelques mots en parlant avec la personne. Peut-être que dans le cadre d'un collège, il faut aller vers ceux qui sont là pour faire respecter l'autorité. Peut-être que c'est la seule solution. Mais en tout cas, il est important qu'il y ait une limite qui soit posée. Pour que, justement, comme le père de ce collégien le disait, cet enfant ne soit pas un paillasson. Comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il est psychologiquement dangereux, et comme je viens de le dire maintenant, il est aussi moralement injuste de laisser le mal se propager. Il faut s'indigner, c'est sain. Donc, la colère, peut-être des fois, il suffit de poser une parole. En tout cas, il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas agir tant qu'on n'est pas sûr de ne pas exprimer de mépris. Et en tout cas, et aussi, il faut l'exprimer. Voilà comment je comprends, moi, l'enseignement biblique sur la colère. Maintenant, je voudrais passer dans une dernière partie, à une partie un peu plus pratique. Et je reviens encore au texte, avec les versets 23 à 26. « Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. » Encore une fois, il ne s'agit pas de deux cas. Il n'en s'agit que d'un seul, en fait. Dans le premier cas, Dieu place la situation devant l'autel. Il ne faut pas imaginer l'autel comme ça, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre la présence de Dieu, devant la présence de Dieu. Si je viens me présenter devant Dieu, comme je le fais tous les jours, pour parler avec lui, lui exprimer tout ce qui fait ma vie, ma joie et mes souffrances, et que je me souviens que j'ai quelque chose contre mon frère, alors il faut que j'y aille, il faut que j'aille me réconcilier. Et là, Jésus veut juste nous dire qu'il est important, que l'importance de gérer la colère est capitale, en fait. Et ensuite, il passe à une deuxième situation, où là, il nous dit, pendant que mon adversaire, donc celui qui est en colère contre moi, là, c'est pas moi qui est en colère cette fois, c'est l'autre qui est en colère contre moi, pendant que celui qui est en colère contre moi est en train d'aller chercher réparation auprès des autorités, pendant que c'est encore possible de me mettre d'accord avec lui, il faut que j'aille le voir et régler la colère. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a un moment où c'est trop tard. Le chef d'État qui a décidé de lancer une attaque nucléaire sur un pays, l'avion est parti, il est en vol, il va arriver sur, sur place. Le chef d'État a jusqu'au moment où le pilote de l'avion appuie sur le bouton pour faire quelque chose. Une fois que le bouton est appuyé, la bombe est lâchée, c'est trop tard, on ne peut pas la faire remonter. Là, il n'y a rien à faire, c'est fini. Et bien des fois, il y a certaines situations où c'est comme ça aussi pour nous, avec la colère. Avec la colère que je ressens envers l'autre, envers la colère que l'autre ressent envers moi aussi, parce que Jésus me rend responsable non seulement de la colère que je ressens, mais aussi de la colère de l'autre. Et il ne nous parle pas de justifier ou non, là. La colère, c'est grave, parce que ça peut avoir des conséquences très graves. On l'a vu avec Cain, bon, c'est un peu extrême, j'imagine que personne ici n'a jamais tué personne pour ces raisons-là. Mais la colère est vraiment très grave, et Jésus nous dit ici qu'il est urgent et important de faire attention à ça et de le gérer. Certains d'entre vous me diront peut-être, je n'arriverai jamais à le faire avec amour, à ne pas être violent envers l'autre, à ce que mes paroles et mes actes n'expriment pas de violence, je préfère m'abstenir, je préfère passer la main, ne rien dire. Ça s'entend, et j'entends ça, j'entends cette parole. Et il est sûrement très sage de ne pas réagir, de ne pas réagir tout de suite peut-être. Jésus nous a dit, c'est important et urgent d'agir. Et c'est là toute la difficulté, c'est là, dans la mise en pratique, c'est là où on peut jouer, c'est sur le temps. Ne pas réagir tout de suite. Je suis responsable de la colère que je ressens, de celle que je provoque chez l'autre, qu'elle soit juste ou injuste. Il faut que j'agisse, mais je ne suis pas obligé d'agir là, sur le moment, tout de suite. Et c'est ça qui peut nous aider. Et dès lors, notre responsabilité, ça devient celle de prier pour ça. Celle de laisser Dieu examiner mon cœur. Ça, c'est difficile. Savoir si ma colère est juste ou injuste. Des fois, on veut réclamer justice pour nous et on n'est pas prêt à se laisser toucher. Chercher des conseils. Alors, des vrais conseils. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on va voir des gens pour chercher des conseils, mais en fait, on va voir les gens qui vont nous dire ce qu'on a déjà envie d'entendre. Ce n'est pas ces gens-là qu'il faut aller voir. Enfin, on peut toujours aller les voir. Mais si on cherche un conseil, il faut aller voir des gens qu'on sait qu'ils vont être justes dans leur regard. Et puis, c'est de ma responsabilité de provoquer la rencontre avec l'autre. De ne plus, quand je ne serai plus dirigé par ma colère émotion, pour pouvoir avoir un vrai dialogue avec l'autre. Donc peut-être vous me direz que vous n'avez pas envie d'agir parce que vous avez peur. Mais peut-être vous me direz aussi, j'ai bien envie de me réconcilier avec l'autre. Mais l'autre refuse le dialogue. Ou alors il ne voit pas la situation comme moi. Lui, il pense que c'est lui qui est blessé et que ce n'est pas moi qui suis blessé. Et la Bible nous dit, autant qu'ils dépendent de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant qu'ils dépendent de vous. Qu'est-ce qui dépend de moi dans ce cas-là? Les mêmes choses que j'ai dit tout à l'heure, prier, m'examiner, provoquer la rencontre. Et si la personne n'est pas prête, est-ce que par amour pour elle, je suis prêt à accepter que ce n'est pas encore le temps pour elle? Alors je peux prier pour elle. Je peux prier pour moi aussi, pour être touché, pour voir si peut-être j'ai pas tout compris de la situation et si Dieu peut m'éclairer. Et puis je peux retendre la perche plus tard. Parfois, il y a des gens qui disent « j'ai essayé, il n'a pas voulu, maintenant je laisse tomber ». Dieu n'a jamais dit « je laisse tomber » avec nous. Jamais. Il n'a pas jeté l'éponge. Avec le peuple d'Israël, il y a eu un exil, mais il y a eu un retour d'exil. Il y a toujours un reste. Dieu ne désespère pas de l'humanité. Dieu ne jette pas l'éponge avec nous. Qui sommes-nous pour avoir le droit de jeter l'éponge avec quelqu'un d'autre? Alors, je peux retendre la perche plus tard. Et puis, si rien ne marche, si ça ne marche pas, alors je peux me décharger sur Dieu, me reposer en lui, dans le calme et la confiance. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Et malgré le temps qui avance, je pense que je vous donnerai un petit témoignage rapide. Si vous avez une vieille blessure qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans au fond de vous, quand on a 20 ans, on est assez vieux pour avoir une blessure vieille de 20 ans. Croyez-moi, Dieu connaît la situation. Dieu compatit avec vous. Dieu vous console. Dieu nous offre la guérison. Et si l'évangile est vrai, si l'évangile est vrai, mes amis, il nous faut croire qu'il nous offre la liberté. Il faut que ça ait un impact dans notre vie. Si l'évangile est vrai, ça ne peut pas rien changer. On ne peut pas rester là avec cette blessure qui fait un abcès au fond de nous. Ce n'est pas possible. Si l'évangile est vrai, Jésus nous offre la liberté dans la possibilité du pardon. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais. J'en suis profondément convaincu. Mais il y a un moment où notre blessure est devenue notre doudou. c'est presque devenu notre identité. On ne veut pas la lâcher. Elle est là et on y tient parce qu'il y a quelque chose qui nous touche au plus profond, nous, qui nous ébranle. Ça devient presque une béquille avec laquelle on marche dans la vie. Mais il existe un chemin de guérison par l'Évangile. Le Saint-Esprit est là en nous et il peut nous travailler. Par la prière, par la parole posée. Peut-être je peux parler avec des amis, peut-être je peux parler avec quelqu'un de professionnel qui est extérieur à toute la situation. On peut être en marche vers cette liberté. Mon petit témoignage, c'est que mes relations avec ma famille ont toujours été compliquées. Je suis né dans un contexte très difficile. Ma mère avait 16 ans et les deux premières années de ma vie, j'ai jamais pu compter sur quelqu'un pour prendre soin de moi. Ça a été très dur. J'en suis encore ému en parlant là maintenant. Et moi et mes frères, on a eu vraiment une enfance très difficile à cause de ça. À l'époque, j'avais pas le sentiment d'être malheureux. Et puis en fait, je me sentais pas le droit d'être en colère contre mes parents. Alors j'ai rien dit. J'ai pris sur moi. Et
l'estrade s'arrête.
On sait bien, ça me fait reprendre mes esprits. C'était très difficile pour moi. Et en même temps, ma mère, c'est ma mère. J'ai qu'une mère. Il faut que je lui pardonne, je ne peux pas rester avec ça, quoi. Et un jour, je faisais une retraite spirituelle dans un couvent. Et j'étais dans une chapelle dont la salle était beaucoup plus grande qu'ici. Et Dieu m'a mis à cœur, il m'a dit, écoute, tu as quelque chose à pardonner à ta mère. Alors, je dis, bah, qu'est-ce que ça peut être? Moi, je ne voyais pas. Et j'ai cherché, alors, j'ai pris du homo, j'ai cherché. J'ai cherché, ça a pris des années. Alors au début, j'ai vu des trucs, il y a des choses qui ont commencé à remonter. Alors moi, à partir du moment où il y a un truc qui remonte, je veux aller droit au but. Dieu m'a fixé un objectif, j'y vais. Donc je suis allé rencontrer ma mère. Je lui ai dit, écoute, voilà, je pense que tu as fait ça et ça contre moi qui n'était pas juste. J'aimerais te pardonner. Sauf que ma mère n'était pas prête à entendre. Et qu'en fait, elle se justifiait constamment et qu'on n'a pas pu s'entendre. Et ça a duré comme ça pendant des années. Et en fait, moi, j'étais toujours sous le coup de mon émotion. En fait, il m'a fallu plusieurs années pour dépasser ça. Et puis, 5 ans plus tard, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant, j'étais enfin prêt. Je ne le savais pas, mais moi, j'étais enfin prêt. J'étais enfin calme, confiant en Dieu par rapport à ça. J'avais pu, au fond de moi, en fait, être prêt au pardon. Et un jour, j'avais un peu coupé les ponts avec ma mère. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse l'effort. Donc, je suis passé la voir. Je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute maman, demain je viens manger avec toi. On a mangé ensemble, et puis à la fin du repas, elle me dit, moi sincèrement j'avais abandonné, hein. Je croyais plus que c'était possible d'arriver à quelque chose avec ça. Et puis elle me dit, il faut qu'on discute, donc elle avait 2-3 choses à parler, et puis une des choses c'était, écoute, je vois bien qu'on n'est plus aussi proche qu'on était avant, et ça me fait de la peine. Et là j'ai senti, j'avais l'occasion de lui dire, mais j'étais pas en colère, j'étais calme. C'était injuste ce qu'elle avait fait pour moi et je voulais dire cette injustice, mais je pouvais le faire sans être sous mon émotion, quoi. Et donc j'ai pu le dire et Dieu m'a fait la grâce que ma mère soit prête à l'entendre et qu'elle puisse écouter, dire oui c'est vrai tu as raison et recevoir mon pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué et du coup les vannes sont vite ouvertes. Alors il faut garder la porte ouverte. Faut pas déclarer l'échec. En conclusion, j'arrive quand même au bout, j'aimerais vous dire, vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Jésus dit, quelques versets plus haut dans ce passage du sermon sur la montagne. Jésus constitue un nouveau peuple, on l'a lu ce matin dans Jérémie, qui doit être une bénédiction pour les nations. C'est la promesse faite à Abraham. Et si l'évangile est vrai, ça doit changer quelque chose. Être chrétien, c'est beaucoup plus vivre le pardon dans nos relations, même avec ceux qui ne sont pas chrétiens, que de venir à l'église. L'évangile, c'est beaucoup plus ça que de venir à l'église. C'est très bien de venir à l'église. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ne videz pas les bancs de cette église, Manu m'en voudrait. Mais c'est beaucoup plus que ça. Être chrétien, c'est vivre le pardon aussi. Et c'est faisable par le Saint-Esprit qui est présent en nous. On peut entrer dans un chemin. Notre vie témoigne. Notre vie doit témoigner. Elle doit témoigner de notre indignation face au mal. Il faut dire les choses. Elle doit témoigner aussi du respect de l'autre dans l'expression des limites. Des limites que Jésus a fixées. Pas de mépris. elles doivent exprimer aussi la grâce et le pardon, tel que Dieu l'a fait envers nous. Notre vie doit être un témoignage que nous sommes le peuple de Dieu et que l'Évangile peut transformer des vies. Amen. Merci. Ça m'encourage. J'aimerais qu'on prenne un petit temps de silence, juste quelques secondes, avant de chanter ensemble ce chant « Brille au Jésus » ou « Par la clarté de ton amour », c'est le titre. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi et nous te disons que nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi pour te connaître, Seigneur, pour marcher dans la lumière, parce que tous les jours tu nous arraches à nos ténèbres et tu nous amènes à marcher dans la lumière, Seigneur. Et nous voulons te demander de toucher nos cœurs pour que ce que toi tu ressens envers nous, nous puissions le vivre entre nous aussi, Seigneur. Je te prie que tu nous diriges encore dans le reste de ce culte et que tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs aussi par les paroles de ce chant.